il continue, contourne la tour hexagonale et regarde à l'intérieur d'une salle à manger. Des meubles en bois foncé se dressent au milieu du parquet brillant. Quelque chose lui fait penser qu'il sert très rarement. Un objet noir gît à terre devant une vitrine. Une housse de guitare, se dit-il. Il entend un bruissement. Eric se penche contre la fenêtre, masque le reflet du ciel gris avec ses mains et voit un grand chien foncer sur lui. Le chien se jette contre la fenêtre, se dresse contre la vitre et aboie. Eric recule d'un bond, trébuche sur un pot et se précipite à l'arrière de la maison où il attend, le cœur battant. Au bout d'un moment, le chien se calme, la lumière extérieure s'allume, puis s'éteint. Eric n'a aucune idée de ce qu'il fait là. Il se sent terriblement seul, désemparé. Il comprend qu'il ferait mieux de rentrer à son bureau à l'hôpital Karolinska et commence à se diriger vers l'avant de la maison. En arrivant de l'autre côté, il voit quelqu'un dans la lumière de l'entrée. L'homme gros, vêtu d'une doudoune, se tient sur le perron. L'inquiétude envahit soudain son visage lorsqu'il aperçoit Eric. Il s'attendait peut-être à des enfants farceurs ou à un chevreuil. « Bonsoir, » dit Eric.
« C'est une propriété privée !»
crie l'homme d'une voix stridente. Le chien se met à aboyer derrière la porte d'entrée fermée. Eric s'approche et découvre une voiture de sport jaune dans la voie d'accès. Elle n'a que deux sièges et le coffre est manifestement trop petit pour contenir un être humain.
« C'est votre Porsche ?»«
Oui, c'est la mienne. »
« Vous avez d'autres voitures ?»«
Pourquoi vous me demandez ça ?»«
Mon fils a disparu, » répond Eric gravement.
« Je n'ai pas d'autre voiture, » dit l'homme. « D'accord ?»
Eric relève le numéro de la plaque d'immatriculation.
« Vous pouvez y aller maintenant ?»«
Oui, »
répond Eric, qui commence à remonter vers la porte du jardin. Il reste un moment sur la route dans l'obscurité, à regarder la maison hantée avant de retourner à sa voiture. Il sort sa petite boîte en bois avec le perroquet et l'aborigène, verse quelques comprimés ronds et lisses dans sa paume, les compte avec le pouce, puis les jette dans sa bouche. Après une brève hésitation, il compose le numéro de Simone. Il se dit qu'elle doit être chez Kenneth en train de manger des sandwichs au salami et aux cornichons. Les longues sonneries trouent le silence. Eric s'imagine l'appartement de l'Oncle Macargatan dans l'obscurité. Le vestibule avec les manteaux, l'applique sur le mur, la cuisine avec la longue table en chêne et les chaises. Le courrier sur le paillasson. Un tas de journaux, des factures, des publicités cellophanées. Au bip, il raccroche, sans laisser de message. Il met le contact, fait demi-tour et reprend la route de Stockholm. Il n'a personne chez qui aller, pense-t-il en sentant toute l'ironie de la situation. Lui qui a consacré tant d'années à la recherche en dynamique de groupe et en psychothérapie collective, se retrouve soudain seul et isolé. Il n'a personne vers qui il pourrait se tourner, à qui il voudrait parler. Pourtant, c'était la force du collectif qui l'avait motivé dans sa vie professionnelle. Il avait essayé de comprendre pourquoi des personnes ayant survécu à une guerre avaient tellement plus de facilité à surmonter leur traumatisme que celles qui avaient vécu seules des atrocités comparables. Il voulait comprendre pourquoi un groupe d'individus ayant subi des tortures soignait mieux leurs blessures que des personnes isolées. « Qu'est-ce qui, dans la collectivité, nous soulage ?» s'était-il demandé. Était-ce la réflexion, la canalisation, la normalisation ou était-ce tout simplement la solidarité ? Arrivé dans la lumière jaune de l'autoroute, il compose le numéro de Yona. Il raccroche après 5 sonneries et essaie le portable.
« Yona ?»
répond une voix distraite. « Salut, c'est Eric. Vous n'avez pas retrouvé Joseph Eck ?»«
Non, »
soupire Yona.
« On dirait qu'il suit un schéma bien à lui. »
« Je vous l'ai déjà dit et je vous le redis, Eric. Vous devriez accepter une protection. »«
J'ai d'autres priorités. »«
Je sais. »
Silence.
« Benjamin n'a pas repris contact ?»
demande Yona dans son suédois mélancolique. « Non. » Eric entend une voix en fond, peut-être la télé. Kenneth devait localiser l'appel, mais il...
« On me l'a dit, mais ça peut prendre du temps. »
dit Yona.
Il faut envoyer les techniciens aux centrales téléphoniques à l'antenne relais exacte.
Alors ils savent au moins de quelle antenne il s'agit.
Je pense que les opérateurs peuvent le savoir directement,
répond Yona. Vous pouvez m'obtenir cette information, l'antenne relais? Il y a un petit moment de silence. Ensuite, il entend la voix neutre de Yona.
Pourquoi vous n'en parlez pas à Kenneth ?
Il est injoignable. Yona soupire légèrement.
Je vais me renseigner, mais n'y comptez pas trop.
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Seulement qu'il s'agit sans doute d'une antenne dans Stockholm, et que ça ne nous avancera pas tant qu'un technicien n'aura pas précisé la position.
Eric l'entend manipuler quelque chose comme s'il dévissait un pot.
Je prépare un peu de thé vert pour ma mère,
dit Yona brièvement. Un robinet coule, puis s'arrête. Eric retient son souffle une seconde. Il sait que Yona doit privilégier la fuite de Joseph Eck. Il sait que le cas de Benjamin n'a rien d'unique pour la police. Un adolescent qui disparaît de la maison est à des années-lumière du travail auquel se consacre habituellement la Rikskrim. Mais il est obligé de demander. Il ne peut s'en empêcher.
Yona, dit Eric, je veux que ce soit vous qui vous occupiez de l'enlèvement de Benjamin. Vraiment, je me sentirais.
Il se tait. Ses mâchoires lui font mal. Il les a serrées sans s'en apercevoir.
Nous savons tous les deux, poursuit Eric, qu'il ne s'agit pas d'une simple disparition. Quelqu'un a injecté un anesthésique chirurgical à Simone et à Benjamin. Je sais que vous privilégiez la recherche de Joseph Eck, et je comprends que Benjamin ne relève plus de votre autorité maintenant que le lien avec Joseph a disparu. Mais peut-être que quelque chose d'encore pire est arrivé.
Il se tait, bien trop bouleversé pour continuer.
Je vous ai parlé de la maladie de Benjamin, s'efforce-t-il de poursuivre. Dans seulement 2 jours, il ne sera plus protégé par le médicament qui aide son sang à coaguler. Et dans 1 semaine, les vaisseaux sanguins seront si tendus qu'il sera peut-être paralysé ou développera une hémorragie cérébrale ou une hémorragie pulmonaire rien qu'en toussant.
Il faut le retrouver,
dit Yona.
Vous pouvez m'aider ?
Sa question reste en suspens. Il est totalement vulnérable. Cela n'a pas d'importance. Il se jetterait volontiers à genoux pour le supplier de l'aider. La main qui tient le téléphone est moite et glissante de transpiration.
Je ne peux pas reprendre comme ça une enquête préliminaire de la police de Stockholm,
dit Yona.
Il s'appelle Fredrik Stensund. Il a l'air très gentil, mais il ne quittera pas le confort de son petit bureau.
Je suis sûr qu'ils savent ce qu'ils font.
Ne me racontez pas de salade, dit Eric à mi-voix.
Je ne pense pas pouvoir reprendre l'affaire,
dit Yona lourdement.
Je ne peux rien y faire, mais je veux bien essayer de vous aider. Il faut que vous vous demandiez qui aurait bien pu enlever Benjamin. Ça peut être quelqu'un qui vous a simplement aperçu dans les journaux, mais ça peut aussi être quelqu'un que vous connaissez. Si vous n'avez pas de suspect, vous n'avez pas d'affaire. Il faut que vous réfléchissiez, que vous passiez votre vie en revue, encore et encore, toutes les personnes que vous connaissez, toutes celles que Simone connaît, toutes celles que Benjamin connaît. Vos voisins, votre famille, vos collègues, vos patients, vos concurrents, vos amis. Est-ce que quelqu'un vous a menacé ? Qui a menacé Benjamin ? Essayez de vous en souvenir. Il peut s'agir d'un acte impulsif ou de quelque chose qui a été planifié depuis des années. Réfléchissez-y soigneusement, Eric. Et puis, revenez vers moi.
Eric ouvre la bouche pour demander une fois encore à Yona de s'occuper de l'affaire, mais avant d'avoir eu le temps de prononcer un mot, il entend un clic à l'autre bout de la ligne. Il reste là, dans la voiture, les yeux brûlants, à regarder la course folle du trafic.